Notre prochain invité est journaliste au Devoir et c'est sûr que c'est pas le journal que je m'y avec lequel je m'y connais le plus, et surtout le sujet, c'est pas le sujet auquel non plus je m'y connais le plus, mais maudit que j'ai trouvé ça intéressant, puis ça m'a fait découvrir quelqu'un que je connaissais pas pantoute, soit le fils de Ronald Reagan, qui s'appelle Ronald Reagan Jr., voilà, qui lui aussi fait son chemin, mais de façon très particulière. Elle est l'auteur de 3 textes, d'ailleurs, publiés dans Le Devoir. Le dernier étant publié aujourd'hui. Et c'est la journaliste Isabelle Porter. Madame Porter, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, là, vous me faites découvrir un personnage qui est Ronald Reagan Jr. Comment vous arrivez, vous, à vous intéresser au fils de cet ancien président qui a été un président très, très aimé aux États-Unis?
Ben, en fait, c'est à cause d'une publicité. C'est qu'il y a une publicité qui circule aux États-Unis dans laquelle il apparaît. Puis c'est la publicité d'une fondation qui milite pour l'athéisme aux États-Unis. Puis dans cette publicité-là, qui est quand même assez controversée, il dit bon, il faut que l'Église prenne ses distances par rapport à l'État. Je suis un athée décomplexé. Je suis à l'aise avec ça. Je suis j'ai pas peur de brûler en enfer. Cette publicité-là, qui s'est passée depuis quelques années, ça passait encore récemment lors du débat là, pour choisir un chef au Parti démocrate. Puis à chaque fois que ça passe, ça brasse beaucoup aux États-Unis. Puis là, ben, je suis comme tombée là-dedans. Puis en fait, j'ai découvert plein d'affaires sur les athées aux États-Unis. Là, j'avoue que moi, de prime abord, quand j'ai entendu parler de ça, je comprenais pas, parce que ici, ne pas croire en Dieu, c'est comme banal, en fait, là. C'est pas controversé du tout. Puis c'est surtout pas une cause, mais je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, le fait d'être athée, de pas croire en Dieu, de le dire ouvertement, ben, c'est comme vraiment quelque chose de tabou. Puis, ben, il y a aussi comme une espèce de mouvement politique autour de ça. Là.
C'est ça, il y a une séparation au Canada, là, que tu sois athée, catholique ou une autre religion, on dirait que ça ne séparera pas personne, ça divisera pas personne. Alors qu'aux États-Unis, ça, et vous l'avez bien dit, Isabelle, c'est tabarouette, c'est vraiment tout un statement d'aller vers ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont dans cette branche-là de bannir l'Église catholique, ou s'ils sont simplement un petit groupuscule là, qui tente de faire progresser leur cause?
Ben, ils veulent pas bannir l'Église catholique. Eux, ce qu'ils disent, c'est que les groupes religieux... En fait, il y a comme 2 branches là, dans les groupes athées. Il y a les gens qui... C'est un peu comme à la limite des groupes gays ou des représentants de n'importe quelle minorité, qui sont plus dans l'affirmation. Tu sais, je suis athée, j'ai pas honte de ça, puis je l'affiche, puis c'est comme un espèce d'exercice de libération personnelle. D'ailleurs, souvent, les athées vont parler de leur sortie du placard aux États-Unis, un peu comme des homosexuels. On entend ça souvent dans le discours homosexuel. Et c'est, il y a comme le truc un peu individuel, mais il y a aussi des groupes organisés athées qui vont aussi s'appeler des groupes humanistes ou des sécularistes, hein, des laïcs, tout ce que vous voulez. Puis ces groupes-là, ben, c'est vraiment des groupes qui va par exemple dénoncer la nomination de la nouvelle juge à la Cour suprême, là, Amy Coney Barrett, parce qu'elle a la réputation de laisser sa foi influencer ses jugements en cours. Donc là, ces gens-là, eux, ils militent dans le fond pour qu'il y ait une claire séparation entre l'Église et l'État. Ils sont préoccupés par le fait que Trump soit très proche des groupes religieux évangélistes. Par exemple, on a vu, ils ont porté plainte parce que le vice-président Pence a participé à des messes, tout ce genre de choses-là, le fait que Donald Trump se soit déjà présenté comme l'élu de Dieu. Bref, tu sais, c'est vraiment le principe de la laïcité de l'État, eux, qui les préoccupe. Fait que il y a tout un espèce de contexte où ces groupes-là s'activent, mais je pense que la statistique, là, pour moi, en fait, ça a vraiment été ça, le choc, là. Il y a un sondage qui est fait à chaque année par Gallup depuis genre 50 ans, qui il demande est-ce que vous seriez prêt à élire un président qui a telle ou telle caractéristique? Puis bon, est-ce que vous seriez prêt à élire une femme, une personne de race noire, une personne homosexuelle? Puis ce qui ressort dans ce sondage-là, c'est qu'il y a plus d'Américains, par exemple, qui seraient prêts à élire un président musulman qu'un président athée. Un président gay qu'un président athée ou non-croyant. Donc, ça vous donne un peu une idée, parce que bon, on sait, la religion musulmane, c'est controversé en politique. Trump a beaucoup attaqué Obama, je pense, par rapport à ça. Il y a plein d'affaires par rapport à ça en politique. Puis là, dès que c'est non religieux, c'est comme en bas de des priorités là. Donc tu sais, c'est là qu'on voit à quel point c'est un tabou. C'est comme si aux États-Unis, encore aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, le fait de ne pas croire en Dieu, c'est vu comme c'est comme si vous n'étiez pas une personne bien ou une personne morale, ça inspire pas confiance.
Ben, on le voit, j'en parle avec Ray de temps en temps, dans le monde du sport aux États-Unis, là, quand je vois un joueur de baseball là, faire le signe de croix puis remercier Dieu parce qu'il a fait un circuit, là, des fois j'ai envie de dire, c'est pas lui qui s'est entraîné puis qui a pratiqué. J'ai de la difficulté au football, on voit ça beaucoup, là, la religion est très, très présente, mais... C'est parce que la distinction entre être athée, c'est une chose, et Isabelle, vous l'avez bien expliqué. L'autre chose, c'est que jamais au Canada, je me serais dit, hey, la Cour suprême, là, ils ont mis Jésus dans la balance avant de prendre une décision. Ici, il me semble que ça me semble clair que ça n'arrivera pas. Et aux États-Unis, surtout avec la nouvelle nomination, ben, il est possible que l'Église catholique soit encore légèrement considérée dans la prise d'une décision.
Et c'est sûr que c'est difficile de prévoir comment la juge va se comporter, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des groupes religieux, évangélistes notamment, qui l'appuient beaucoup puis qui ont beaucoup poussé pour sa candidature parce que eux, ils espèrent que ses convictions catholiques vont influencer ses interventions, puis qu'éventuellement, elle va ouvrir le débat. En fait, elle pourrait soutenir des décisions contre le droit à l'avortement, parce que dans le fond, toute la question là, qui est la plus délicate par rapport à la question de la place dans la politique de la religion aux États-Unis en ce moment, c'est le droit à l'avortement, là, c'est la fameuse décision là, Roe v. Wade, comme ils disent, là, donc c'est un arrêt de la Cour suprême qui remonte aux années 70, puis ça fait des décennies que les groupes plus conservateurs religieux souhaitent rouvrir ça, puis en fait ils trouvent qu'on est trop permissif aux États-Unis en matière de droit à l'avortement. Mais tu sais, moi, dans le fond, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est des catégories n'étaient pas les mêmes aux États-Unis que chez nous. C'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est comme, on a eu un gros débat sur la laïcité au Québec ces dernières années, mais c'est un débat qui était beaucoup porté par des nationalistes, des gens qui défendaient l'identité québécoise, puis qui étaient méfiants par rapport à la religion, souvent musulmane. Il y avait aussi dans certains cas, une réaction à la peur de l'islam. Fait que là, dans le fond, aux États-Unis, c'est complètement différent. Là, dans le fond, les mouvements athées aux États-Unis, ils sont contre les nationalistes, mais c'est des nationalistes chrétiens. Fait que c'est comme une dynamique complètement différente. Puis là, ben, embarque le fils de Ronald Reagan là-dedans. Ça, j'ai trouvé ça spécial aussi, parce que Ronald Reagan, père, il y a beaucoup de gens qui ont fait des comparaisons avec Donald Trump. Que ce fils Reagan dénonce Trump comme il le fait, ça aussi, c'est étonnant.
Il fait ça pourquoi? Je veux dire, là, il a 62 ans aujourd'hui. Y a-tu des visées politiques plus élevées que où il est? Je comprends pas. Là, moi, vous me le faites découvrir, mais il veut quoi? Il fait quoi, là, ce gars-là?
Bon, je pense qu'il veut rien, puis il fait rien. Je pense que la seule chose qu'il fait activement, c'est la fameuse publicité qui roule, puis qui est très controversée, dans laquelle il dit « Je suis un athée assumé, je n'ai pas peur de brûler en enfer ». Cette publicité-là, là, sérieusement, là, à chaque fois que ça passe, ça fait toute une histoire aux États-Unis. Il y a même des chaînes de télévision qui ont censuré la dernière partie où il dit qu'il est prêt à brûler en enfer parce que c'est jugé trop choquant pour les auditeurs. La raison pour laquelle il est intéressant, c'est que c'est peut-être une des rares personnalités connues ou célébrités aux États-Unis qui accepte ouvertement de se présenter comme non-croyant. Je suis désolée pour les bruits de construction que vous entendez peut-être à côté de chez moi.
Non, c'est correct.
Mais c'est mais c'est ça, tu sais, donc c'est vrai, ça montre à quel point c'est tabou, c'est pas payant, si vous voulez, pour une personnalité publique de s'afficher comme ça. Puis lui, ben il a accepté de le faire parce que c'est clairement un type qui est très comment je pourrais dire indépendant d'esprit. Il a toujours eu pris ses distances par rapport à sa famille, puis il a vraiment jamais été gêné de ses opinions.
Ça semble avoir commencé très tôt, là. Vous écrivez que dès l'âge de 12 ans, lui, il a dit, OK, là, je crois plus en Dieu, puis là, il embarque Adam et Ève, puis le Père Noël là-dedans. C'est un long cheminement, là.
Oui, mais c'est drôle son histoire, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand il était plus jeune, il s'est toujours demandé, surtout quand son père était élu président, est-ce que vous allez vouloir vous faire de la politique à votre tour? Puis il disait tout le temps non, parce que clairement, ça l'intéressait pas. Puis à un moment donné, pour fermer le clapet du journaliste, il a comme dit, regardez, de toute façon, là, même si je voulais faire de la politique, je pourrais pas parce que je crois pas en Dieu. Ça a comme marché. Le journaliste a fait « Ah oui, j'avoue, c'est comme un handicap pour un politicien. » Mais en même temps, cette déclaration-là, ça a comme eu beaucoup, beaucoup d'impact. Puis c'est des années plus tard, c'est revenu dans le décor parce que justement, il y a des groupes militants athées qui sont venus le voir puis on dit « Hey, viens nous aider, on a besoin d'un porte-parole. » Puis je dirais que depuis, ben, il accepte dès qu'on lui demande de donner des entrevues comme il le fait avec moi. Puis, mais c'est aussi un commentateur politique. Tu sais, c'est clair que c'est un démocrate, il s'en cache pas, il a participé à plein d'événements du Parti démocrate. Mais c'est l'autre affaire aussi qui est intéressante, c'est que lui et sa sœur ont fait plusieurs sorties publiques pour dire à quel point Trump et leur père étaient des gens différents. C'est parce que faut savoir que Donald Trump s'est beaucoup réclamé de Ronald Reagan. T'sais, Ronald Reagan, c'est resté une espèce de président mythique pour les États-Unis, un personnage que les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Puis, juste le slogan de Donald Trump, le « Make America Great Again », ben il l'a repris de Ronald Reagan. Ah, il y a beaucoup de gens qui font des parallèles entre les deux parce que les deux venaient un peu de l'industrie du divertissement. Ronald Reagan, c'est un ancien acteur d'Hollywood. Donald Trump, il faisait un show télé-réalité. Les deux, c'est un peu des outsiders, tu sais, qui faisaient pas partie de l'élite politique à Washington puis qui étaient perçus comme... aussi ça, tu sais, qui était peut-être regardé un peu de haut. Donc, souvent, tu sais, on a fait des rapprochements entre les deux. Mais justement, tu sais, les enfants de Reagan sont sortis à plusieurs reprises pour dire « Hey, ça n'a rien à voir ». Puis en fait, ils sont choqués qu'on puisse faire des parallèles entre les deux parce que, entre autres choses, Ronald Reagan, c'est un homme qui était pieux, croyant, mais dans sa tête à lui, c'était clair qu'il fallait que la religion, la politique, ce soit deux choses séparées. C'est-à-dire que, pour lui, c'était la religion, c'était quelque chose de privé. Donc, dans le contexte actuel où, tu sais, vraiment, le président est tout à fait à l'aise à laisser des groupes religieux influencer la politique, ben ça, les enfants Reagan disent, ben, ça n'a rien à voir avec notre père. Puis aussi, toute la question là, de l'immigration, tu sais, le discours sur le mur de Trump. Trump a déjà laissé entendre que Ronald Reagan avait essayé de faire un mur, mais qu'il n'avait pas réussi, alors que c'est pas vrai. Ça a été, d'ailleurs, vérifié par des journalistes, je pense, du Washington Post. C'est pas vrai. L'attitude de Ronald Reagan par rapport à l'immigration était beaucoup plus compatissante. Ouais, son ennemi, lui, c'était les Russes pendant longtemps.
C'est ça. On peut pas comparer les deux, puis je comprends très bien un peu la frustration de la famille, qu'il soit démocrate ou républicain, là, mais je comprends la famille qui doit se dire, ben, arrête d'embarquer notre père là-dedans, alors que s'il était là, ben, il dirait que c'est totalement faux.
Mais lui, c'est à son avantage. Trump, c'est à son avantage de faire ça. Comme ouais. Isabelle dit, Reagan, il a été aimé beaucoup.
Ouais, puis c'est du name-dropping un peu, ouais. Tu sais, de s'associer à ça. Alors, tout qu'un personnage est vraiment intéressant. Est-ce que sa popularité est en montée, même si c'est pas ça qu'il cherche Reagan Jr., ou ben si c'est juste, bon, les pubs télé, puis ça s'arrête autour de ça?
Ben, je vais être franche, je pense que c'est surtout les pubs télé. Est-ce que, dans le fond, ça reste un personnage assez... marginal aux États-Unis. T'sais, oui, et des fois, il est invité à la télévision et tout ça. Par contre, il représente quelque chose qui est il représente un mouvement qui gagne en importance, qui devient de plus en plus important aux États-Unis parce que, c'est ça dont je parle dans mon article de ce matin, c'est les athées, les non-croyants aux États-Unis, là, ça augmente dans les sondages. T'sais, je pense que il y a 10 ans, c'est peut-être 15 ou 16% de la population, là, on est rendu à un Américain sur 4. Donc, ça, c'est un gros, gros changement dans la société américaine parce que, puis d'ailleurs, ça peut peut-être expliquer que certains lobbies religieux soient aussi actifs, c'est que là, la dynamique est en train de changer. C'est les plus jeunes sont moins religieux, s'impliquent moins aussi en politique. Donc là, il y a comme plein de monde qui se demande un peu comment ça va changer la game, si je peux dire. Puis, ben, il y a des organisations... athées militantes très actives qui cherchent à aller chercher les jeunes. Mais tu sais, le fait d'être athée pour certaines personnes, c'est pas nécessairement comment je pourrais dire une cause ou une raison de sortir dans la rue. C'est comme un truc plus privé. Puis tu sais, comme beaucoup de gens me faisaient remarquer, tu sais, c'est en général, c'est quand on convainc des gens de militer dans une organisation ou de manifester ou de s'engager en politique, c'est parce qu'ils croient tous en une chose. Là, c'est comme réunir des gens ensemble parce que ce qu'ils ont en commun, c'est pas croire en quelque chose.
Ouais, fait que, j'avais regardé, j'avais lu, moi, quand, à un moment donné, il s'est installé, peut-être autour de l'attentat de la mosquée, ici à Québec, là, mais il y avait une peur, à un moment donné, des musulmans et tout ça. Puis j'avais fouillé dans ce côté-là, puis je me souviens, Pierre, tu m'avais déjà sorti le formulaire pour que je...
Il est encore chez nous. Là,
comment ça s'appelle, déjà, ce formulaire-là?
L'apostasie, demande d'apostasie.
Bon, c'est ça. Bon, je voulais, moi, signer ça pour faire cette demande-là, mais c'était pas bien important, mais en fouillant là-dedans, j'ai découvert que la religion qui perdait le plus de membres, c'était les musulmans. C'est eux qui ont à se battre le plus pour à cause peut-être de tout ce qui est contraignant autour de la religion. Là, peu importe, je veux pas embarquer là-dedans, mais ouais. Les catholiques étaient ceux qui en perdaient peut-être le moins. Ils sont moins nombreux des fois, si on regarde la population de la Terre en général, mais les musulmans avaient ce défi-là de dire, hey, on est en train de perdre notre monde, là. Fait que quand on dit que les gens deviennent athées, ça vient de partout, là. Je sais pas au niveau des juifs comment ça se passe, mais il y a des religions majeures comme les catholiques, mais surtout les musulmans, où là, les jeunes débarquent complètement de la patente dans ce que les parents les avaient embarqués.
Ah non, mais c'est ça. Puis tu sais, ici, à cause de la Révolution tranquille, il y a comme un rejet super clair là, quand même là, de la religion. Puis tu sais, ça va un peu de soi chez vous, mais ils n'ont pas les mouvements de... liberté civile, tout ça des années 60, puis l'espèce d'équivalent là, de ce qu'on a eu ici aux États-Unis, ça s'est passé comme sur d'autres lignes, avec comme d'autres préoccupations. Il n'y a pas eu un rejet marqué de la religion comme on l'a vécu ici. Fait que tu sais, la dynamique est complètement différente. Puis on pourrait parler aussi de la réalité des Mormons aussi.
Ah,
tu sais,
oui, c'est vrai.
C'est vraiment puis tu sais, toute la c'est particulier aussi. Bon, par exemple, pour les Afro-Américains, la place de la religion qui est super importante. Tu sais, c'est comme pour les Afro-Américains, pendant longtemps, les églises, c'est un des seuls endroits de refuge où il y avait même pendant l'esclavage et tout ça. Là. Donc, ça, c'était comme un lien communautaire super fort. Mais là, ça il reste qu'avec les jeunes générations, ça s'étiole. Puis moi, je pense que ça. Je sais pas comment, peut-être indirectement, ça va avoir beaucoup d'influence sur la politique américaine.
Exact. On va suivre ça. C'est très intéressant de nous faire voir la différence souvent entre deux pays voisins, mais entre deux mentalités extrêmement différentes. Merci beaucoup, Isabelle Porter. Ce fut très agréable, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler.
OK, ben pareillement, bonne journée.
Merci. Isabelle Porter est journaliste au Devoir et donc elle écrit trois textes sur tout ce qui entoure là, ce débat autour de la religion catholique aux États-Unis. Mais il y a quelqu'un qui écrivait la religion catholique est minoritaire aux États-Unis. Là, j'ai pas...
C'est possible.
Oh, ce serait quoi d'abord la religion majoritaire?
Oui, qu'est-ce, mettons, si les athées, là, on parle de 20%.
Les juifs, il y en a. À New York, il y en a beaucoup.
Ouais, mais de là à dire la majorité des Américains, je pense que c'est encore. Si mettons vraiment là, il fallait y aller par identité. Moi, je pense vraiment que les catholiques dominent aux États-Unis. Les musulmans sont peut-être là beaucoup aussi.
C'est le christianisme à 73% en 2016.
Bon, OK. Fait que la personne qui est
c'est assez majoritaire.
C'est ça. Tu sais, c'est de. Tu sais, mettons toute l'immigration là du Mexique. C'est eux autres sont catholiques en tabarnouche.
Oui.
Des pays en difficulté, là. Les pays pauvres, là.
C'est le catholicisme.
La religion est forte, est forte.
Mais t'as besoin d'espoir.
Il faut que tu t'accroches à quelque chose.
Ouais, c'est ça. Ouais.
T'as pas d'argent, fait que tu t'accroches à...
Pas d'argent, là. T'as aussi des conditions de physique.
Ouais, ouais. T'accroches après une croix.
C'est sûr que catholique, c'est large, là. Ça recoupe protestants puis toutes ces affaires-là. Mais c'est quand même la religion catholique. Là,
c'est Jésus.
Jésus.
C'est Jésus. C'est mon valet parking.
Fait que. C'était mon technicien, moi.
OK.
Technicien, valet parking.
C'était donc, voilà, les articles d'Isabelle Porter dans Le Devoir. On s'arrête quelques instants.